Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Get it easy.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filomena.
Filomena.
Proprio non mi ricordate.
Mais non, j'ai pas qu'il dise. Proprio pas qu'il dise.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, amoureux du cinéma, de la liberté, de la terre, de votre mère, de la mer, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Cathy. Salut Cathy.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et tous.
Didier, salut.
Bonjour
Didier.
Tout le monde.
Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et bien sûr, Manette. Sylvain.
Bonjour.
Au programme de ce Cinémascope, on parlera des films La Ferme des Bertrands, Le Dernier des Juifs, Le Royaume de Kensuke, Les Lueurs d'Aden, et peut-être on dira un mot s'il nous reste un peu de temps sur les Césars, pas tant sur la cérémonie, mais plutôt sur les films. Voilà. Mmh. On va commencer, les derniers seront les premiers, alors on commence avec Le Dernier des Juifs.
Tu as ton certificat de judaïté pour prouver que tu es juif.
Monsieur, j'ai un rendez-vous.
Non, je viens chercher mon certificat de judaïté.
Fréquentez quelle synagogue ?
Je ne vais pas trop à la synagogue, elle a fermé malheureusement. Mais parfois je regarde des cours sur YouTube.
Vous pouvez me dire quelque chose en hébreu ?
Evenu shalom alechem, evenu shalom alechem.
Oui, les rires d'Olivier. Effectivement, pas mal d'humour. Le Dernier des Juifs de Noé Debré avec Michael Zindel, Agnès Jaoui, Solal Boulindine. Tu es allée le voir, Cathy. Qu'en as-tu pensé ?
Oui, bah justement, voilà vos réactions en entendant la bande-annonce, c'est que c'est le rire. Et c'est vrai que ce film, c'est une comédie avant tout, même s'il a un sujet, un fond quand même important, engagé, on va dire. Mais c'est vrai que c'est avant tout une comédie et on rit beaucoup sur la première partie du film. Donc c'est un premier film. Hein, Noé Debré, c'est un jeune réalisateur et la deuxième très bonne idée de ce film, c'est d'avoir réuni Agnès Jaoui, qui est une actrice qu'on connaît bien, qu'on apprécie, qui joue bien, qui est une figure dans le cinéma français, et ce jeune acteur qui s'appelle Michael Zindel, qui sort d'un peu de nulle part, qui a fait un peu de cinéma aussi, et qui est vraiment la révélation de ce film parce qu'il est... il est génial, quoi. Il est attachant, il est drôle, il a ce complètement. Il colle au personnage, quoi. Donc, l'histoire, c'est l'histoire de Belisha qui a 27 ans, qui est un peu frêle, un peu gringalé, nonchalant, immature, qui fait croire à sa mère qu'il travaille et qu'il est très demandé sur le marché du travail, justement, alors qu'il passe un peu son temps à fricoter avec la voisine et à pas faire grand-chose en réalité. Et elle est dans ce... Elle est fatiguée, malade, et elle est dans cet esprit de vouloir quitter cette cité, enfin ce lieu où ils vivent, où c'est là où on aborde la question un peu plus politique entre guillemets ou religieuse du film, où on parle de l'alia interne, et donc le fait que cette communauté juive qui est quand même très forte en France déménage et quitte les cités pour fuir l'insécurité. Mmh. Et effectivement, c'est une chose qui a commencé dès les années 2000, et il y a énormément effectivement de juifs qui ont quitté Seine-Saint-Denis, enfin d'autres, mais vraiment de manière radicale, quoi. C'est impressionnant les chiffres de ces personnes qui ont quitté dans la métropole parce qu'il y avait une multiplication des actes des actes et des menaces antisémites. Donc, il y a ce sujet qui est là, et donc lui, en fait, il veut rassurer sa mère, hein, et lui faire croire qu'il s'occupe de tout, alors que, bon, clairement, il s'occupe de pas grand-chose, et surtout pas de ça. Mais bon, elle est dans cette dynamique, ça aborde cette question du racisme, mais de manière très intelligente et très subtile, et c'est vraiment une réussite dans ce film. Et puis, voilà, la mère juive, interprétée par... par Agnès Jaoui, c'est vraiment une mère juive dépoussiérée, quoi. C'est pas la caricature que l'on peut avoir, intrusive et fort en gueule comme ça. C'est pas du tout le même personnage, et c'est ça aussi qui est bien dans le film. Et voilà, ça reste une comédie. Il y a vraiment un humour qui est présent, qui est généreux, et ça fait vraiment du bien dans le cinéma français. Ouais, voilà.
Le dernier des Juifs, ouais. De Noé Debré, donc, qui est à voir au Regain d'Auteuil. Ben, ça va être un Regain d'Auteuil full. Tous les films dont on va parler aujourd'hui sont au Regain d'Auteuil.
Bah, c'est un peu logique, quelque part, et dommage, on va dire, pour le navire de passer à côté de certains films qui sont comme ça, qui font du bien, qui sont des comédies pour autant. Hein, une comédie française, c'est pas que des comédies lourdingues non plus. Ah. Et donc, on peut voir une petite référence à Tanguy aussi, je trouve, dans le film. Puisque bon, voilà, il a 27 ans, il est chez sa mère, bon voilà, mais de côté juif. Mmh. Un Tanguy un peu différent.
On va parler d'une autre histoire de relation, de famille, de transmission.
On est dans un petit village de Savoie qui s'appelle Quincy. C'est un peu particulier parce que j'ai toute ma famille qui habite ici.
Et votre vie, c'est le travail tout le temps? Ah bah oui, mais nous pensons qu'il n'y a pas d'autre façon de faire pour essayer de s'en sortir et améliorer nos conditions de vie.
C'est particulier cette année parce que ce sera notre neveu et sa femme qui va prendre la relève.
On va déjà essayer de digérer cette reprise parce que ça te manque les morceaux.
Oh, puis on y fait aussi parce que ça nous plaît, je pense. Wow, c'est la première des choses, c'est ça. Hein.
Oui, un court extrait de La Ferme des Bertrands de Gilles Perret, un film qui se tient sur 50 ans, puisque Gilles Perret était le voisin des Bertrands. Tu es allé... Ah ben non, René est allé le voir.
Avant tout,
on va d'abord laisser parler René grâce à la magie des ondes et de la bande magnétique préenregistrée. Alors René, tu es allé voir La Ferme des Bertrands de Gilles Perret. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Que du bien, et je serais volontiers dithyrambique à propos de ce film, pour un tas de raisons que je n'aurais pas le temps d'évoquer toutes.
Ah mais fais-toi plaisir et fais-nous plaisir, parle-nous de La Ferme des Bertrands.
Oui, je vais le faire. Donc ce film, c'est 50 ans de la vie d'une ferme. On est en Haute-Savoie, chez les Bertrands, dans une exploitation laitière d'une centaine de bêtes, tenue au début par trois frères, tous célibataires. Cette ferme a été filmée une première fois en 1972 pour la télévision, par Marcel Triat, et ensuite en 1997 par Gilles Perret, un voisin des Bertrands, qui leur a consacré son premier film, alors que les trois frères célibataires étaient en train de transmettre la ferme à leur neveu Patrick et à sa femme Hélène. 25 ans plus tard, donc, troisième filmage, aujourd'hui donc, Gilles Perret, le réalisateur voisin, reprend sa caméra pour accompagner Hélène, la veuve de Patrick, puisque Patrick est décédé entre-temps, qui à son tour va passer la main. Et donc le film retrace à travers les gestes des personnes qui se sont succédées, des parcours de vie où le travail et la transmission d'un héritage, autant affectif que financier, que matériel, occupent une place centrale. C'est un film à la fois intime, social, économique, du monde paysan. Alors, je dois dire, comme je l'ai dit d'ailleurs en préambule, que ce film m'a enthousiasmé. C'est un film qui sonne juste. Le monde paysan est un monde que personnellement je connais bien. Je viens de ce milieu-là. Mes parents étaient paysans, mes voisins aussi. Et j'ai retrouvé dans le film cette atmosphère si particulière, faite de sérieux, de modestie et aussi de silence. Mais ce que j'ai trouvé le plus marquant, c'est l'émotion qui se dégage de ce film. La sincérité, l'honnêteté, la clairvoyance avec laquelle ces trois vieux paysans parlent de ce qui a été leur vie. Ce bilan mitigé qu'ils font après 50 ans de dur labeur avec, côté positif, une ferme modernisée qui génère du profit et, côté négatif, le fait d'avoir été contraint à devenir paysan. C'est-à-dire contraint à exercer un métier pénible, jour après jour, sans prendre de vacances, sans fonder une famille. Ce mélange de fierté légitime et de regret est tellement touchant. En même temps, c'est une leçon de vie que nous donne toute cette famille. Et c'est une image ô combien positive d'un monde que les gens croient connaître et en fait connaissent très mal. parce qu'il le voit de loin avec parfois un regard un peu méprisant. Et voilà ce que la première chose qui me vient à l'esprit, qui m'est venue à l'esprit en sortant de ce film, où je suis allé avec des amis dans une salle qui était, ma foi, bien remplie.
Oui, c'est ce que tu me disais, ouais, salle pleine pour un sujet, ouais, aussi qui est assez porteur.
Exactement.
On disait, ouais, dans cette à la fois dans cette région et puis dans ce moment que traverse...
Bien sûr, oui, je pense que les manifs de paysans, ils sont aussi pour quelque chose. Bien sûr, on commence à se poser des questions. Et puis, il y a aussi quand même le débat entre la malbouffe et l'agriculture écologique, quoi, et que pose ce film aussi, que pose tout film sur la ruralité, d'une manière ou d'une autre. Alors, en ce qui concerne l'aspect cinématographique proprement dit, on a bien sûr d'abord ces plats absolument magnifiques de cette haute Savoie. On se dit qu'il n'y a pas plus beau sur Terre, quoi. Dont en même temps les protagonistes du film nous disent qu'elle est menacée par le surtourisme et par les gens qui veulent construire des maisons de partout, la dispersion de l'habitat rural, mais c'est des possibilités de faire de l'agriculture qui sont réduites. Il y a ça aussi. Alors, d'un point de vue formel, je retiens surtout la façon dont ce film a été monté. On a donc 3 générations dans le film, 4 si on compte les petits-enfants, et Gilles Perret n'a heureusement pas construit son film de façon chronologique. On a un va-et-vient entre les 3 frères, le couple Patrick et Hélène, et les 2 jeunes qui, aujourd'hui, gèrent la ferme. Tout au long du film, on a ces trois niveaux. C'est comme un fondu enchaîné, en fait. Au début, je prends un exemple. Au début d'une scène, on a les vieux qui sèment des pommes de terre. La caméra change d'angle et sur la même scène, en quelque sorte, ce sont les 2 jeunes qui, 30 ou 40 ans plus tard, s'adonnent à la même tâche.
Ah.
Et je trouve que c'est très parlant, quoi. Comme s'ils avaient pris en quelque sorte la relève, il y a là quelque chose de très important qui se joue et qui est pour moi le message essentiel de ce film. Ce que souligne ce montage en va-et-vient, c'est le fait que d'une génération à l'autre, rien ne s'est perdu dans cette famille, tant pour ce qui est du savoir-faire que des valeurs. Le film semble nous dire, ces gens-là, c'est du solide. Et c'est du solide parce qu'il y a un lien entre eux, un lien entre les générations, un ciment qui fait leur force, un relais qu'on se passe de génération en génération. Ça, c'est très bien vu dans le film. Voilà. Autre chose que les cinéphiles ne manqueront pas les cinéphiles ne manqueront pas de penser au diptyque de Georges Rouquier, Farbic, réalisé en 1946, et Bicfar en 1983. Ça te dit quelque chose ?
Oui, oui, oui.
Tu avais peut-être vu ?
J'ai vu il y a très très longtemps. Ouais, ouais, Farbic.
Ouais. Ouais, ouais. 2 films qui dépeignent la vie et les problèmes du monde paysan à travers une famille aveyronnaise, qui ont connu 2 films qui ont connu un très grand succès, pas qu'en France d'ailleurs, y compris aux États-Unis. Et il y a beaucoup de points communs entre La ferme des Bertrand et les 2 opus réalisés par Georges Rouquier. Voilà. Il ne faut manquer à mes yeux sous aucun prétexte de voir La ferme des Bertrand. Je le répète, c'est un film juste, émouvant, d'une grande richesse et un film utile à une heure où on se pose la question de quelle forme d'agriculture on veut. Et là, ça me paraît un modèle réussi.
Merci beaucoup. Et qui a l'air de soulever aussi d'autres questions, comme tu le disais, sur le surtourisme, etc. En fait, c'est même plus large que ça. C'est comment on vit ensemble sur un territoire en respectant toutes les données du vivant.
Ouais.
Et aussi,
un problème d'échelle. On n'est pas dans les fermes de 1000 vaches, mais on n'est pas non plus dans les toutes petites fermes qui ne sont plus viables. Là, ça a l'air de marcher, quoi. Ça fait énormément de bien parce que ça a l'air de marcher. Les 2 jeunes qui ont 37 ans, comme ils le disent, qui sont en train de tenir la ferme, ils se plaignent pas. Je veux dire, ça a l'air de fonctionner. C'est aussi un des aspects positifs de ce film.
Mais tu as raison de souligner tout de suite une question d'échelle.
Voilà.
Merci beaucoup. Ben, ne ratez pas donc La Ferme des Bertrands, mm-hmm. qui est à l'affiche au Regain du Teil, au cinéma Le Teil.
Et peut-être à Tueil, je ne sais pas.
Et il sera à Tueil, ben, je vais donner les dates juste après.
La prochaine.
Oui, il va tourner en Ardèche sur quelques dates.
Tout à fait, c'est un film qu'il ne faut pas rater.
Merci beaucoup René.
Plaisir.
Didier, as-tu quelque chose à ajouter
sur ce film utile ? Pas beaucoup de choses. Je pense que René a dit énormément de choses. Je suis tout à fait d'accord avec sa vision du film, donc le nouveau film de Gilles Perret, qui continue à scruter notre société et l'histoire de nos sociétés, donc après la résistance, le CNR, la sécurité sociale, les gilets jaunes, etc., etc., et qui fait ici un travail absolument magnifique. Donc je rebondis sur ce que disait René au sujet du montage. Le montage est absolument extraordinaire, comment il entremêle ces trois époques sans qu'on s'en aperçoive presque, et en n'en faisant qu'une seule, une seule histoire. C'est assez formidable, et c'est ce qui fait entre autres la qualité du travail de Gilles Perret, c'est-à-dire que ce ne sont pas des documentaires filmés avec un téléphone portable, c'est vraiment du vrai cinéma. Au-delà de ça, c'est vrai que le film sort, alors c'était pas du tout prévu, hein, mais le film sort à un moment très opportun, au moment où les McCormick sont dans la rue, ouais. si l'on peut dire, puisqu'on sait qu'un film c'est très long, c'est 3, 4, 5 ans, donc
oui,
voilà,
mais
ça tombe bien, ouais. ça tombe bien. Et ce qui est très très intéressant, je trouve, il a un peu abordé ça, René aussi, c'est que c'est pas une très grosse exploitation. Quand on parle de mécanisation et de robotisation dans ce film, c'est pour la traite, hein, puisque c'est une ferme qui d'éleveurs laitiers pour fabriquer du reblochon, grâce leur soit rendu. Donc on n'est pas dans la très grosse exploitation de la FNSEA, etc., mais on n'est pas non plus chez les bio. Donc on est dans un entre-deux, mais par contre chez des gens... Et ça, c'est répété pendant tout le film sur les trois générations, avec des gens éminemment respectueux de la nature. Il y en a un qui dit à un moment, mais quand on voit ça, c'est beau, etc., il faut quand même le rendre au moins aussi beau que quand on l'a reçu, quoi. Et tout le film est bâti un peu sur cette idée, c'est-à-dire il y a un profond respect de la terre, des paysages, hein, une ferme où il y a encore des arbres au milieu des champs qu'on n'a pas abattus, profond respect des animaux, il y a une centaine de vaches, il y a deux des trois frères qui les connaissent tous par leur nom. Et tout ça fait vraiment quelque chose, effectivement, comme dit René, de au-delà de l'aspect cinéma, de très utile aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu ce monde paysan qui, par ailleurs, quand même, on voit dans le film qu'il y a un peu de mal à survivre, puisque au début des années 50, la ferme débloquait trois salaires et là, il n'y en a plus que deux.
Allez voir donc La Ferme des Bertrands au Regain du Teil et le 1er mars, donc vendredi prochain, à Tueil. Et puis à partir du 8 mars, il sera programmé au Navire.
Ah.
J'aime vous donner de bonnes nouvelles. Mmh. On poursuit.
Michael, monte avec moi. Aide-moi à barrer. Toute la famille, ensemble, à la découverte du monde. Des dauphins. Oh. Gentil, Stella.
La mer est démontée.
Stella est dans sa niche, il faut aller la chercher.
Michael ! Attention ! Michael.
Allez, regagnons la terre ferme, le royaume de Kensuke de Neil Boyle, adapté du roman best-seller de Michael Morpurgo. Je ne sais pas comment on prononce.
Comme ça, je crois.
En 2001, déjà. Alors, je me disais, tiens, ça a plus de 20 ans,
oui.
cet album. Comment on en tire un film ? Enfin bon, c'est une question peut-être pour tout à l'heure. En tout cas, Olivier, tu es allé voir ce film dans la tradition des films jeunes publics.
Oui, auxquels je m'attache.
Exactement.
Voilà, avec passion. Et d'ailleurs aussi dans la tradition un livre, un film, du coup.
Eh bien, mais oui.
Eh ben oui, parce qu'il s'agit quand même bien d'une adaptation au cinéma d'un livre de Michael Morpurgo, comme tu l'as dit. Même titre, hein, Royaume de Kensuke. Ça raconte l'histoire d'une famille qui décide de prendre le large, d'aller faire le tour du monde à la voile.
Et là, ils entrent dans le Pacifique, donc ils sont déjà pas mal bourlingués. Ils rentrent dans le Pacifique, et puis tempête et une grosse vague emportent l'enfant et son chien. Et eh bien, chance, quoi, ils échouent sur une île. L'enfant, Michael, qui s'appelle Michael aussi d'ailleurs, et son chien, Stella. Et sur l'île, bon, bah, je divulgue pas de manière prématurée, jolie traduction de spoiler, d'ailleurs, hein, rien du tout, en disant que sur cette île se trouve Kensuke, également, qui est déjà là depuis un moment, et qui recueille donc l'enfant et son chien. C'est très très bien dessiné. Moi, je me suis trouvé plus à l'aise finalement que dans Le Garçon et le Héron, à la limite, que j'avais trouvé extrêmement riche, bien sûr. On discute, mais peut-être trop. Là, c'est plus de plein pied. On rentre, et d'ailleurs, on rentre dans un monde, l'île et la mer. On rentre dans un monde qui aide notre imagination à produire elle-même le monde en compagnie de l'artiste qui a fait le film, quoi. Donc on rentre dedans puis on imagine en même temps. Et on, comment dirais-je, Michael Morpurgo disait qu'il avait attendu plus de 20 ans la mise en film de son histoire. Il a déjà eu Le Cheval de Guerre, qu'il avait fait paraître en 82, qui a été mis au cinéma par Spielberg himself en 2011. Et puis aussi le je vais pas le retrouver, Why the Whales Come, pourquoi l'île aux baleines, pardon, voilà, en 89, qui a aussi porté à l'écran quelques années après son écriture. C'est pour ça, traduction, un livre, un film, et là, et effectivement, l'auteur du livre dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas relu son propre livre et qu'il a vu le film 4 fois et que maintenant, pour lui, l'histoire, c'est le film, en fait. C'est plus son bouquin. Il trouve que c'est le film qui raconte bien l'histoire qu'il a voulu raconter. Et donc, je comme spectateur, je dis oui, effectivement, on rentre dans une histoire qui fait énormément de bien. La salle était assez garnie quand j'y étais mercredi après-midi. Et beaucoup d'enfants et beaucoup de parents. Peu de grands-parents, comme ça, à vue de nez, hein. Et un public très, très divers et visiblement très satisfait également de cette expérience du royaume de Kensuke. Moi, ce que je dirais, bon, je vais essayer de pas prendre trop de temps non plus, mais même si le film me mérite, je crois, on retrouve ce thème, si on veut, de l'unité du vivant qu'on avait dans Le Dernier Guépard, qu'on avait un peu, bon, plus en filigrane dans Wish, dommage d'ailleurs, Wish. Pour... Et donc là, cette question de l'unité du vivant, qui dans Le Dernier Jaguar était traitée de manière un petit peu non humaniste, j'avais trouvé, avec une attitude à l'égard des peuples autochtones que j'avais trouvé un peu suspecte, un petit peu trop prétentieusement américaine, etc. Là, pas du tout. On a au contraire, donc, je veux pas dire plus de choses du film, il faut vraiment le découvrir, parce qu'on a vraiment cette sensation d'avancer dans l'île et puis de découvrir des choses. Et donc, on a l'histoire de Kensuke qui va être racontée rapidement dans une autre animation, à l'intérieur de l'animation, en noir et blanc comme ça, donc ça permet de comprendre tout en restant dans le monde de l'île. Et alors, ce thème de l'unité du vivant, je trouve qu'elle est bien abordée, parce que elle est abordée, on voit la sensibilité la plus fine des animaux rejoindre la spiritualité des hommes. Et de manière, l'unité du vivant, elle se fait par ce biais-là, c'est la sensibilité animale qui rencontre la spiritualité humaine, et ce même dans le fait, par exemple, d'entretenir et de faire pousser une plante, une fleur, qui va servir à faire un pigment pour faire de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc l'unité, et des hommes et des animaux et des plantes, on la vit véritablement dans ce monde très, très beau du film Le Royaume de Kensuke. Donc j'invite vraiment à aller le voir pour le plaisir qu'il procure et puis le soutien qu'il procure aussi à la pensée du à la pensée environnementale, à la pensée à l'écologie globale, enfin, etc. Il y a vraiment dans une atmosphère un peu japonaise. Les Japonais sont évidemment sensibles à ce souci environnemental, parce qu'ils vivent eux-mêmes sur une île, puis sur une île où il y a des tremblements de terre, donc il faut vivre avec la nature. Et donc, ils ont développé une pensée de la présence de l'homme au cœur du monde et du vivant, qui est passionnante. Ouais.
Tu recommandes donc Le Royaume de Kensuke, qui est à voir, par chance, évidemment, au Regain du Teil, mais pas que, à Rosières, à Royons, au Navire et à Vals-les-Bains. On poursuit notre petite balade cinématographique.
تسجلوني الدكتوره منى
لا نحن معانا موعد شخصي نتبارك يا منى ما مال اللي انتي
مصدق من انتو تشتو نقطه النفس انتو عارفين رايي بدا الموضوع من زمان مستحيل اني اغيره
بالنسبه لها بالحقك حرام
كلامي ولا كلامه هذا الموضوع له خلاف
انت اخر مره رحت للدكتوره
ايش تحقيق ولا كيف
انا تعبت يا منى تعبت
خلص من لما نقيتي لي امس انت واحمد العياده اللي ما عرفتش انا
طريقك
التلفزيون وقفنا الحداية اليوم
قد وقفنا لما دوخنا بعض الحرب ما شفايد
بهذا اللي تبدلنا الفترة الأخيرة هزتنا كثير يا أسرع
ومارك صلي عني بماذا
Les lueurs d'Aden, vous aurez entendu une langue arabe, un film yéménite sur l'avortement, c'était osé. Amr Gamal l'a fait et tu es allé le voir, Didier.
Oui, je le regrette absolument pas. Alors, oui, un film arabe sur l'avortement, oui, mais pas que. Mmh. C'est surtout un film sur le Yémen et sur Aden. Et comment on vit aujourd'hui à Aden, donc dans ce pays qui est soumis à une guerre civile depuis des années, qui ne semble pas intéresser grand monde, hein, par ailleurs, en dehors des Yéménites. Donc, on est à Aden maintenant. Le trio, enfin les personnages principaux sont une famille. Lui assure comme il peut le quotidien économique, donc il travaillait à la télévision publique, mais ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas été payé. Donc pour survivre, il conduit un taxi, on se débrouille. La femme travaille pas, il y a trois enfants, et voilà qu'elle est enceinte dans un quatrième enfant, et c'est une véritable catastrophe, parce que économiquement, déjà c'est extrêmement dur, économiquement ce sera absolument pas possible. Donc on évoque l'avortement, mais ça pose un problème. Alors c'est pas dit complètement dans le film, on n'a pas l'impression que c'est interdit par la loi, mais ça reste une affaire de conscience. Alors le couple, heureusement, a une amie médecin qui travaille dans une clinique. Alors c'est pareil, on sait pas trop qui c'est, sauf qu'elle est voilée de la tête aux pieds. Donc on voit quand même qui est le personnage, qui hésite, qui tergiverse, mais on a un imam qui comme ça se fait aussi chez nous et tout, fait des vidéos et qui lui dit « Ah, jusqu'à 120 jours, on peut avorter ». Mais le 120e jour, l'étincelle divine arrive et voilà et tout. Donc, fort de ce précepte, peut-être que ça va fonctionner. Alors ça, c'est l'histoire, c'est la fiction du film. Ce qui est très très intéressant, c'est que cette fiction, elle est inscrite véritablement dans la ville. Donc tout le film est filmé en plan large ou en plan très large même, de façon à ce que l'histoire et les personnages soient. Donc on voit la circulation, on voit les convois de militaires qui passent, on voit la pauvreté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent qu'il y a un problème, quoi. Mais il y a une générosité, c'est-à-dire ce couple va être aidé par des gens qu'on va pas vraiment connaître dans le film, mais qu'on imagine pas beaucoup plus riche qu'eux. Mais il y a quelque chose de très très fort comme ça. Donc mise en scène très 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 épurée. Donc je pense que cette volonté des plans très très larges se justifie sur deux plans. Bon, le premier c'est ça, c'est-à-dire c'est d'inscrire dans la ville, faire une espèce de. On a l'impression qu'il est en train de fabriquer des souvenirs aussi pour demain, une sorte d'iconothèque pour demain. Et je pense aussi que les acteurs sont soit des semi-pros, petits rôles télé, un peu de théâtre, et des acteurs absolument pas pros, et que c'est très compliqué pour un film à toute petite économie de tourner les caméras, de remettre en place. Mais en fait, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc c'est un film assez rare sur une ville qu'on connaît très peu, sur un pays qu'on connaît très peu, dont juste les bruits de guerre nous parviennent de temps à autre. Moi, je crois que c'est le premier film yéménite de ma vie que je vois. J'ai pas le souvenir d'en avoir vu d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de discours emphatique sur la religion, sur la guerre, sur la pauvreté, sur tout ce décor. Donc c'est pas du tout misérabiliste. Et voilà, c'est juste des gens qui essaient de se débrouiller pour survivre dans un milieu extrêmement difficile.
Les lueurs d'Aden. Cathy, tu étais allée le voir il y a un petit moment.
Oui, et comme Didier, je suis tout à fait d'accord avec son analyse sur le film. C'est un film, alors le réalisateur, c'est son deuxième, c'est son second long métrage, et le premier long métrage qui s'appelait 10 jours avant le mariage avait été, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on le voit en France celui-là, ce film, parce que le premier qu'il avait fait, en fait c'est le premier film yéménite qui a été commercialisé et exploité même au Yémen. Il a fait 8 mois au Yémen et il a été représenté aux Oscars en 2008.
D'accord.
Et je pense que c'est ce qui a donné aussi la possibilité au second long métrage de ce réalisateur d'exister en dehors du Yémen et avoir un peu plus de visibilité dans la filmographie.
C'est une belle histoire, ça, au terme de distribution, production d'un film.
Ah bah oui, complètement. Et c'est important de le souligner. Mais je regardais les entrées du film. Il est sorti donc en janvier, je crois, 31 janvier ou 24 ou 31 janvier. Il a fait 12 000 entrées. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de copies non plus. Je n'ai pas vérifié, mais 12 000 entrées, c'est voilà. Bon, c'est pour ça que c'est des films qu'on a besoin d'exploiter, qu'on a besoin de montrer en salle.
Que maintenant, avec le numérique, oui. S'il y a une demande des salles, les copies suivent.
Mais bien sûr, elles ne peuvent que suivre. Et c'est typiquement le genre de film. Alors, je suis d'accord avec toi aussi. Ce qui est intéressant particulièrement, c'est qu'on est sur des tranches de vie, on est sur du quotidien. On a vraiment la guerre civile en fond et il nous montre vraiment des petits gestes et des vies, enfin voilà, des tranches de vie au quotidien, et ce film il est marquant pour ça, quoi. Il est hyper important pour
Il me semble que c'est important effectivement, parce que le Yémen intéresse par exemple l'Arabie Saoudite et l'Iran, et donc ça pose quand même des problèmes, et c'est bien dans ces situations chaudes au niveau international de voir qu'il y a des gens derrière. Et avec des voilà, et c'est important de voir les gens, parce que sinon ça devient des trucs sur des cartes, c'est pas bien. Il faut qu'on voit qu'il y a des gens.
Exactement.
Voilà, c'est pas seulement les outils dont on parle aujourd'hui qui tirent sur les bateaux. Il y a un peuple.
Il y a un peuple.
Il y a un peuple qui est soumis aux coupures de courant, aux coupures d'eau. Enfin, on voit tout ça.
Et là, on est dans les conséquences de la guerre civile et pas à montrer particulièrement la guerre civile. Et c'est tout l'intérêt du film. Et donc, ouais, c'est typiquement le genre de cinéma qu'il faut absolument défendre et pouvoir programmer.
Un film utile.
Un film utile. Oui. Merci René. Non, merci Olivier. Pardon. Ouais. Allez le voir. Alors, Au regain du Teil, Les lueurs d'Aden de Amar Gamal. On a 2 minutes pour terminer. C'est demain la cérémonie des Césars. Je ne sais plus. C'est ce soir, mon Dieu, mais je ne suis pas.
C'est vendredi.
La 49e cérémonie des Césars. Simplement, je ne veux pas vous demander de pronostic, ça ne sert à rien. Mais vous, vos coups de cœur sur le meilleur film. Il y a Anatomie d'une chute de Justine Triet, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages, Jeanne Herry, Le procès Goldman, Cédric Kahn, Le règne animal, Thomas Caillet.
Moi, mon coup de cœur, c'est comme tout le monde, c'est, je crois, le César d'honneur pour Agnès Jaoui. C'est pas ça qui doit se faire ?
Si, je crois qu'il y a un César d'honneur
pour Agnès Jaoui.
Oui.
Ah, d'accord.
Voilà.
Bah, c'est difficile parce que enfin tous les films qui sont nommés, c'est ça, on dit nommés, hein, meilleurs films sont vraiment tous super bien pour plein de différentes raisons. Je sais pas, j'ai un peu de mal à bien sûr
à choisir.
Ouais, à choisir.
C'est peut-être pas une bonne question de ma part. Non, s'ils sont tous bons, tant mieux.
On peut. Ouais.
Oui, c'est moi j'ai la même réaction, donc je vais plutôt citer un outsider qui ne sera pas récompensé, qui est un film que personne n'a vu mais qui mérite pourtant d'être vu, qui s'appelle Disco Boy. Je ne sais pas si tu l'as vu, Cathy.
Ah ouais, non, je l'ai pas vu.
Et
c'est
vraiment un film très très intéressant, ouais. Complètement en marge de tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec en plus une bande son superbe.
Et moi, je voulais juste ajouter, je sors des Césars, mais je parle du prix Alice Guy. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Le prix Alice Guy a été remis aux filles d'Olpha, de Kauter Benania, dont on avait parlé.
Excellent.
Et donc, on fera sans doute un écho aux prochaines rencontres des cinémas d'Europe, puisque Véronique Lubry, qui est fondatrice du prix Alice Guy, sera avec nous.
Mais il faudrait inviter Alice Guy.
Peut-être Kauter Benania, mieux. Ce serait mieux.
Ah, ce serait
plus facile. Et à mon avis, plus simple.
Et peut-être, mais ceci dit, avec, je ne sais pas, oui, on peut.
C'est peut-être la table ronde là, qui me fait penser à des choses.
Enfin, mais peut-être que Kauter Benania aura le César du meilleur documentaire, puisque il y a Les Filles d'Olpha, Atlantic Bar, que vous aviez diffusé
aussi,
Little Girl Blue, Notre Corps et Sur l'Adamante.
Ouais,
pas
facile.
Super.
Sur les documentaires, c'est mon choix, ça.
Oui,
ouais.
Tout à fait.
En fait, ce dont on peut se réjouir, c'est qu'il y a eu des très très bons films en 2023.
Effectivement.
Ça, c'est sûr.
D'excellent.
Et après, faut-il les mettre en concurrence à travers des prix
d'entrée, dont 40% de films français, ce qui n'est pas le cas tous les ans.
Bravo.
Et donc, et oui, tu soulignais juste avant qu'on se quitte là-dessus, oui, quand même, toi qui es à la tête des rencontres des cinémas d'Europe, faut-il mettre en concurrence, est-ce que tu disais
Mais c'est tous ces films qui ont un intérêt artistique, culturel, cinématographique, tout ce qu'on veut, technique. Vraiment, chaque film a son intérêt. Et là, je trouve qu'il y a des super films qui sont mis en lice et donc compliqué hein, de les opposer. Et pourquoi en remettre un prix à un plus que d'aucun autre? Mais bon, voilà.
Allez tous les voir. Allez au cinéma.
Oui, c'est ça.
Allez au cinéma. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma encore. Merci beaucoup d'être venu ici nous parler de tous ces films. Et merci, Sylvain, pour la réalisation de cette émission. Bon week-end à tous.